On va essayer de faire quelques petites choses complémentaires concernant le livre de Daniel. D'abord, nous avions cité hier les Maccabées, et nous n'avions pas la version. Maintenant, il y en a une, merci, dans le livre des Maccabées. Alors, il y avait plusieurs citations. Où sont-elles, mes citations? Ah, voilà. Voilà. J'avais notamment cité dans un Maccabée, chapitre 1. C'est une version ici... oui, c'est ça, le cardinal Liénard. Alors, chapitre, il y a naturellement ces livres qui sont pour nous des apocryphes, et qui auraient dû d'ailleurs toujours rester tels, quoique intéressants, quoique n'étant pas dépourvus d'intérêt. Chapitre 1, verset 20, mais ils ne sont pas inspirés, n'est-ce pas? Alors, voilà ce que dit 1 Maccabée, 1, verset 20. Deux années plus tard, le roi envoya un commissaire aux impôts dans les villes de Juda, et il vint à Jérusalem avec une troupe nombreuse. Il adressa aux habitants avec astuce des paroles pacifiques, et il le crut. Vous voyez que son astuce, tout ça, c'est pas celle, ça ne semble pas inspiré, n'est-ce pas? Ça ne semble pas du tout vraiment le texte du livre. On sent que c'est une rédaction, n'est-ce pas, libre. Elle est, historiquement, elle est intéressante. Des paroles pacifiques, et il le crut. Il se jeta sur la ville à l'improviste, lui infligea de grands maux et fit périr beaucoup d'Israélites. Il prit les dépouilles de la ville, puis la livra aux flammes, détruisant ses maisons et les murs d'enceinte. Les Syriens emmenèrent en captivité les femmes et les enfants. Vous voyez qu'il s'agit bien des Syriens, donc d'Antiochos, qui était roi de Syrie. Et se partagèrent le bétail. Ils rebâtirent la cité de David avec une grande et forte muraille et de puissantes tours. Elle devint leur citadelle. Ils y installèrent une population impie, d'hommes pervers, et s'y retranchèrent. Ils entassèrent des armes et des vivres, ayant ramassé les dépouilles de Jérusalem, et ils les y déposèrent. Ce fut là un grand piège, car elle devint une embûche pour le temple et un fléau diabolique pour Israël sans répit. Et puis j'avais donné aussi 1 Maccabée 6:2. 1 Maccabée 6:2. Lisons 6:1. Le roi Antiochus, voilà, c'est là qu'il est, dans les traductions, on met son nom Antiochus Épiphane. Alors que, véritablement, il vaut mieux dire Antiochos. Le roi Antiochus, ayant traversé les hauts pays, entendit dire qu'il y avait en Élimaïde, en Perse, une ville fameuse par sa richesse en argent et en or. Le temple qui s'y trouve est d'une richesse fabuleuse. Il contient des armures en or, des cuirasses et des armées laissées par Alexandre, fils de Philippe. C'est Alexandre le Grand, fils de Philippe, roi de Macédoine, qui a régné le premier sur les Grecs. Antiochus chercha à s'emparer de la ville et à la piller, mais il ne put pas parce que son projet avait été connu des habitants qui s'étaient préparés à résister. Il partit donc de là, fort dépité, pour retourner à Babylone. On vint lui annoncer en Perse que les armées qu'il avait envoyées en Judée avaient été mises en déroute. Il s'agit de la ville, c'est donc Jérusalem, le temple, c'est le temple de Jérusalem. Était mise en déroute, et que Lysias, ayant pris le commandement en chef d'une forte armée, avait également été mis en fuite, et que les Juifs étaient renforcés par les armes des troupes qu'ils avaient battues et le gros butin qu'ils avaient conquis sur elles. Ils avaient aussi démoli l'idole qui avait été édifiée sur l'autel de Jérusalem et entourée de hautes murailles, comme auparavant le temple et la ville de Bethsur. Bethsur, c'était le nom qu'on avait donné à Jérusalem. Alors, Nous avons aussi 2 Maccabées, chapitre 5, premier livre, deuxième livre. 2 Maccabées, chapitre 5, verset 11. Verset 11 à 17. Ces événements. Antiochus, le titre qu'il y a là est celui-ci. Antiochus pille le temple. Ces événements étant parvenus aux oreilles du roi, il crut que la Judée s'était révoltée. Aussi, étant revenu d'Égypte avec son armée, voyez les campagnes d'Antiochus en Égypte, n'est-ce pas, avec son armée, la rage au cœur, il prit la ville d'assaut et ordonna aux soldats de frapper sans merci ceux qui leur tomberaient sous la main et d'égorger ceux qui montraient dans leur maison. Il se fit un massacre de jeunes et de vieux, une extermination de femmes et d'enfants, de jeunes filles et de nourrissons. Les pertes de ces 3 journées se montèrent à 80 000 personnes. Il y eut 40 000 tués et autant furent vendus comme esclaves. Non content de cela, il osa entrer dans le temple le plus saint de toute la terre, guidé par Ménélas, qui était devenu traître aux lois et à la patrie. Donc ce Ménélas était un juif. Pas devenu traître, c'est ce que nous avons lu dans Daniel, il y avait des traîtres à l'Alliance, prenant de ses mains impures les vases sacrés et les présents offerts par d'autres rois pour accroître la gloire et l'honneur de ce lieu. Antiochus les remettait avec mépris à des mains profanes. Le roi fut rempli d'orgueil, ne voyant pas que le maître était irrité momentanément à cause des péchés des habitants de la ville. Vous voyez, il mentionne ici que le maître, c'est-à-dire Dieu, était irrité momentanément à cause des péchés des habitants de la ville, c'est-à-dire des juifs, n'est-ce pas? Alors, le terme de la colère que nous avons vu, était bien la colère contre Jérusalem. C'est pourquoi il avait montré une telle indifférence pour le temple. Si le peuple n'avait pas été revêtu de si nombreux péchés, il serait arrivé la même chose qu'à Héliodore, lorsqu'il avait été envoyé par le roi Séleucus pour inspecter le trésor, et Antiochus, une fois entré, aurait été châtié sur le champ et serait revenu de son audace. Mais ce n'est pas pour le temple que le Seigneur a choisi son peuple, c'est pour son peuple qu'il a choisi le temple. Ah, c'est pas mal. C'est pourquoi le temple, lui aussi, ayant participé aux calamités arrivées à la nation, fut plus tard associé à sa prospérité et, après avoir été abandonné par la colère du Tout-Puissant, fut restauré dans toute sa gloire par la réconciliation avec son auguste maître. Enfin, tout ça, c'est historique, c'est très bon, mais on sent très bien que c'est pas un texte inspiré. Vous voyez, ça se sent très bien, n'est-ce pas, à le lire. Bon, nous avons encore 2 Maccabées, chapitre 9. Fin d'Antiochus Épiphane, là. Vers ce temps-là, Antiochus revint de façon peu glorieuse des régions de Perse. Il était en effet entré dans la ville appelée Persépolis et avait essayé de piller le temple et de s'emparer de la ville. Mais la population s'était soulevée et avait couru aux armes. Les Syriens furent mis ensuite en fuite et Antiochos, battu par les indigènes, se retira couvert de honte. Il était à Ecbatane quand il apprit ce qui était arrivé à Nicanor et aux hommes de Timothée. Transporté de fureur, il résolut de venger sur les Juifs son humiliante défaite. Aussi ordonna-t-il à son conducteur de char de pousser sans arrêt jusqu'au terme du voyage. Mais le châtiment du ciel était déjà sur lui, qui disait dans son orgueil, « Je ferai de Jérusalem le tombeau des Juifs dès que j'y serai arrivé. » Alors, maladie d'Antiochus Épiphane, repentir d'Antiochus, lettre d'Antiochus aux Juifs, et puis mort d'Antiochus, je ne vais pas vous lire tout ça, mais simplement la mort. Ainsi, le meurtrier et le blasphémateur qui avait fait tant de mal aux autres, termina misérablement sa vie au milieu des pires souffrances, à l'étranger, dans les montagnes. Philippe, son camarade d'enfance, ramena son corps, mais craignant le fils d'Antiochus, il se retira en Égypte auprès de Ptolémée, Philométor. Je vous ai parlé de ce Philométor. Voilà. Et puis après, il y a la purification du temple par Maccabée, et ses compagnons, conduits par le Seigneur, s'emparent du temple, et puis alors ils détruisent les idoles, ils purifient le temple. Voilà une chose. Bon, maintenant, je voudrais encore vous dire quelque chose, avant d'abandonner le livre de Daniel. Vous dire que nous avons parlé de l'Empire romain, n'est-ce pas ? De l'Empire romain comme quatrième empire représenté par les jambes et les pieds de la statue du songe de Nebuchadnezzar, et puis représenté dans le chapitre 7 de Daniel par un animal qui n'est pas nommé, un animal terrible, un animal absolument terrible. Alors, je voudrais là rapidement vous montrer que l'Empire romain, considéré par les historiens comme ayant pris fin, en réalité n'a pas pris fin. Et selon la prophétie, il n'a pas pris fin. Enfin, cet empire romain a commencé à être fondé en moins 65, c'est-à-dire 65 avant notre ère, par le Pompée le Grand. Pompée le Grand, qui était consul à Rome. Il faut dire que, n'est-ce pas, Rome avait déjà conquis la péninsule d'Italie, et une partie tout au moins, Pompée, n'est-ce pas, et qu'il était général. Alors, il détruit le royaume de Syrie. Hein, royaume de Syrie. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qui se fait, si vous voulez, c'est la première cuisse. C'est la première cuisse qui tombe. Vous savez que le ventre et les cuisses représentaient le royaume d'Alexandre, l'empire grec d'Alexandre. Alors voilà déjà, n'est-ce pas, une cuisse d'airain qui tombe, c'est-à-dire le royaume de Syrie, celui dont Antiochos a été pendant un temps le maître. Et puis, en moins 63, Pompée prend Jérusalem. Le même Pompée, n'est-ce pas, prend Jérusalem. Je le signale parce que là, évidemment, c'est important, Jérusalem. Important pour nous. En moins 30, alors là, c'est César Auguste qui détruit le royaume grec des Ptolémées. Alors, César Auguste, qui sera d'ailleurs le premier empereur romain, César Auguste va détruire la deuxième cuisse, c'est-à-dire l'Égypte. N'est-ce pas ? Vous voyez, l'Empire d'Alexandre était représenté comme le ventre de la statue, puis il avait donné lieu à deux parties, les deux cuisses d'airain, hein. Et voilà, n'est-ce pas, déjà, les deux cuisses qui tombent, donc on passe de l'Empire grec, l'Empire des Grecs, on passe à l'Empire romain à ce moment-là. Et puis, alors, après, n'est-ce pas, eh bien, l'Empire est constitué, l'Empire est déjà constitué, je ne vais pas retracer son histoire, je vais simplement marquer, alors, une date, là, ici, 312, qui sera l'accord de l'empereur Constantin, n'est-ce pas, avec l'Église, avec le christianisme, hein, mettons Église si vous voulez, avec l'Église, n'est-ce pas, ça, c'est cette fameuse entente qu'on a appelée que souvent la conversion de l'empereur Constantin, une conversion assez curieuse, assez bizarre, c'est en réalité un accord politique avec l'Église qui intervient là en 312. Et puis, en 330, voilà que, par conséquent, c'est 330, Constantin toujours, qui
fonde Byzance.
Byzance qui va être la deuxième Rome. Alors, voilà cet empire romain qui lui-même, déjà, prend deux parties. Deux parties, il est représenté par deux jambes, les deux jambes et les pieds, n'est-ce pas? Constantin fonde Byzance, qui est tout de suite appelée la deuxième Rome. Et alors, en 395... de notre ère, alors, n'est-ce pas, ici, nous sommes, à partir d'ici, nous sommes dans notre ère. 395, c'est la mort de l'empereur Théodose. Il a été seul de son nom, d'ailleurs, Théodose. Et l'empire, là, se scinde en deux. Ici, à 80... en 395, n'est-ce pas, il va y avoir l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Alors, l'Empire d'Orient aura pour capitale Byzance, qui se nommera après Constantinople, et Rome va rester la capitale de l'Empire d'Occident. Il y a donc là deux grandes branches. Les deux grandes branches sont séparées. Elles existaient déjà, mais elles sont séparées en 395 à la mort de Théodose. En 400. Alors là, c'est le commencement de l'invasion des rois goths. Hein? L'invasion des rois goths, c'est en effet la campagne d'Alaric, chef des Visigoths, contre l'Empire romain. Je passe les détails, bien sûr, de tout ça, l'histoire est assez compliquée. En 538 de notre ère, alors les dix royaumes sont apparus. Les derniers ayant été les Lombards. Là, j'ai cité les dix rois goths, Vandales, Alains, Suèves, Visigoths, Burgondes, Francs, Bretons, les Huns, les Lombards et le royaume de Ravenne. On a voulu quelquefois y mettre l'Angleterre. Il est vrai que l'Angleterre a appartenu pendant un temps à l'Empire romain, tout au moins une bonne partie de l'Angleterre. Mais elle fut conquise sous le règne de l'empereur Claude. Ça fait un siècle après la fondation de l'Empire, n'est-ce pas? La langue anglaise, elle ne sera pas dérivée du latin, elle sera dérivée du goth. Et au commencement du 5e siècle, la Grande-Bretagne fut relevée par l'empereur Honorius de son serment d'allégeance. D'ailleurs, elle était liée par un serment d'allégeance à l'empereur de Rome, et elle cesse d'appartenir à l'Empire d'Occident en 409. En somme, l'Angleterre a été une sorte de colonie pendant un temps, mais c'est à tort qu'on la ferait entrer vraiment dans l'Empire romain. Ce ne veut pas dire que l'Empire de l'Antichrist ne va pas la comprendre. La prophétie n'a pas pour but de nous dire, comme ça c'est une vue trop étroite, que l'Empire de l'Antichrist soit exactement dans les limites de l'Empire romain. Non, ce que nous voyons maintenant dans les limites de l'Empire romain, à peu près, n'est-ce pas, ce sont les dix parties qui en sont dérivées, puisque la prophétie nous a dit qu'il y aurait dix cornes, n'est-ce pas, sur cet animal, dix cornes, et que ces dix cornes sont dix rois, donc dix parties, dix royaumes. Eh bien, les dix royaumes en 538 sont réalisés. En 755, naturellement, On peut marquer la fin historiquement, n'est-ce pas? Ce font les historiens, la fin de l'Empire romain en 538, n'est-ce pas? Quand l'empereur Théodose va lui-même capituler, je crois que c'est lui, enfin. Mais disons que l'Empire romain, n'est-ce pas, poursuit quand même son existence, même si les historiens ne la voient pas toujours. Là, c'est ici la création de l'État pontifical. L'État pontifical avec capitale Rome, un État pontifical qui est créé pour donner une base territoriale à l'indépendance politique de la papauté, n'est-ce pas? La papauté voulait avoir son État et elle voulait conserver Rome. Elle obtient donc cet État en 755. Et le pontife romain, parce qu'il s'appelle pontife lui aussi, Pontifex Maximus, l'empereur, le Pontifex Maximus, souverain pontife, ça veut dire souverain pontife, on l'appelle encore comme ça, n'est-ce pas? C'est un titre qu'il a pris de l'empereur romain, enfin, il s'est octroyé non seulement Rome, mais le Pontifex Maximus, il a pris ça, et l'empereur romain l'avait pris, lui, il l'avait acheté à prix d'or, du roi de Babylone. Vous voyez que tout vient bien de bonne source, n'est-ce pas? Nous sommes là, n'est-ce pas, très renseignés. Pontifex Maximus, c'était le titre du roi de Babylone, de cette Babylone, n'est-ce pas, qui est rejetée de Dieu. Alors, nous avons en 800, alors, nous avons ici, n'est-ce pas, un fait qui montre bien que, vraiment, n'est-ce pas, l'Empire romain n'est pas mort. C'est Charlemagne qui est, lui, empereur d'Occident, et qui continue l'Empire romain pour un temps. Puis, après ça, nous pouvons noter, bon, il y aurait d'autres dates à noter, mais enfin je prends les principales. 1453, c'est la fin de l'Empire d'Orient. L'Empire d'Orient se prolonge, l'Empire de Byzance se prolonge donc beaucoup plus longtemps que, historiquement vu, n'est-ce pas, que l'Empire d'Occident. C'est la fin. Donc de l'Empire d'Orient, et cela par l'action de Mahomet II qui triomphe du dernier empereur Constantin XI et qui prend Constantinople, autrefois Byzance. En 1500 de notre ère. Alors là, nous arrivons à Charles Quint, grand empereur d'Allemagne, d'Espagne et du Saint-Empire romain. Vous voyez qu'il n'est pas mort comme on pourrait le croire, n'est-ce pas? Empereur du Saint-Empire romain, il est d'ailleurs... c'est lui qui sera couronné par le pape, le dernier. Et puis, après, n'est-ce pas, l'histoire est assez compliquée. Il faut regarder dans l'histoire les résurgences de cet empire romain. Mais au XIXe siècle, c'est-à-dire en somme tout près de nous, on pouvait compter 10 États. Les choses se sont compliquées encore avec les guerres de 70, de 14, n'est-ce pas, 1914. Et même de 1939-40, Alors là, au XIXe siècle, il y avait 10 États, la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, la Sardaigne, la Bavière, le royaume lombard vénitien, le royaume d'Illyrie, la Hongrie et les deux Siciles. 10 morceaux de l'ancien empire romain. 10 morceaux. Et maintenant, si on pouvait étudier les choses, je ne l'ai pas fait, on retrouverait encore, n'est-ce pas, les 10 morceaux, et nous allons voir, n'est-ce pas, maintenant, cet empire se reconstituer, non pas peut-être dans, absolument dans ses limites, mais ce sera la continuation à travers l'histoire, même s'il y a des périodes confuses, où il y a en quelque sorte une brume, sur l'existence de cet empire. Cependant, n'est-ce pas, les 10 parties sont encore là et vont se réapparaître en un tout, en une sorte de fédération sous la direction de l'Antichrist. Voilà donc une chose qui était à dire, une chose que je voudrais encore dire avant d'en terminer avec Daniel, c'est que ceux qui mélangent Antiochos, ce qui est dit d'Antiochos dans Daniel et ce qui est dit de l'Antéchrist, n'ont pas étudié sérieusement le livre, parce que au verset 7, au chapitre 7, les versets 8, 11 et 24, nous l'avons vu, il s'agit de l'Antichrist. Là, c'est sûr. Et c'est une petite corne. Mais il y a deux petites cornes. Il y en a deux. La petite corne du chapitre 8, verset 9 notamment, est celle qui est Antiochos, puisque c'est une petite corne qui pousse sur le bouc. Et il est dit expressément que le bouc est le roi de Javan, c'est-à-dire l'Empire grec. Enfin, alors voyez, il faut étudier les choses sérieusement, de près. Si on étudie de près, on voit précisément, d'ailleurs c'est bien mieux, n'est-ce pas? La prophétie nous montre deux personnages qui ne sont pas apparus du temps de Daniel, l'un est apparu maintenant, n'est-ce pas? Deux personnages qui tous deux sont désignés par une petite corne, et puis qui tous deux abattent d'autres cornes. Trois cornes, n'est-ce pas? Mais les deux petites cornes sont dans des passages différents, dans des prophéties différentes, et sont deux petites cornes parce qu'elles se ressemblent beaucoup, en effet. Donc, nous sommes fondés à établir une relation, une ressemblance entre les deux petites cornes, Antiochos et l'Antichrist qui est à venir. Et le Seigneur Jésus l'a fait quand il a parlé de l'abomination, de la désolation, n'est-ce pas, dans son discours eschatologique. Il a donc il s'est référé à l'action d'Antiochos, parce que cette action d'Antiochos est révélatrice, elle a tracé dans l'histoire des faits, des actes qui vont se reproduire. Pas exactement pareil, mais dans leur même signification, dans leur même portée, vont se reproduire à la fin des temps du fait d'une seconde petite corne. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut savoir. Et bien maintenant, nous considérons notre étude du livre de Daniel comme close et terminée.